France, t'as envie de réagir à ce qui se passe en marge de l'affaire Caroline Néron.
Oui.
En fait, les commentaires extrêmement durs à son endroit. Est-ce que, écoute, je sais pas si t'as envie de faire ça, mais est-ce que tu peux nous en résumer quelques-uns?
Il y en a eu de différents ordres. Il y en a sur les réseaux sociaux et c'est vraiment pas très joli. Il y a eu François Lambert, l'ex-dragon, qui est allé d'une assez joyeuse taloche. Et j'entends beaucoup de commentaires qui vont un peu revanchard. C'est une vedette, elle a fait son argent, elle a fait son succès dans l'œil du public. On peut donc commenter son échec, presque elle nous doit des comptes. C'est à peu près tout ça. Je t'ajouterais également, on sent beaucoup de mesquinerie, de la jalousie, on sent aussi de la misogynie, s'ajoute au fait de son insuccès que c'est une femme. Il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là également. Et évidemment, je me garderai une gêne. On ne sait pas tout de sa stratégie d'affaires. Alors, sur son échec, comment c'est arrivé, je me garderai une petite gêne et je laisserai les spécialistes financiers parler de ça. Mais je me demandais quel miroir ces commentaires et cette affaire-là nous tend-elle? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de notre rapport à l'argent et de notre rapport au succès, parce que c'était ça Caroline Néron, c'était vraiment une réussite financière et c'était un succès qu'elle étalait vraiment à la une des magazines financiers et des magazines People. Il y a vraiment eu peopleisation de
oui.
son entreprise, ça c'est
oui,
très très clair.
Elle était très connue avant aussi.
Absolument.
Comme chanteuse,
c'était
comme comédienne,
tout à fait.
Et tout ça, une vedette
exactement.
Qui jouait ce jeu-là avec bonheur, avec
oui.
plaisir, mais en même temps, c'est pas une raison pour qu'on tape sur quelqu'un qui vit une situation extrêmement
absolument
difficile,
pas.
Extrêmement
et,
difficile.
Et je me suis penchée sur notre rapport au Québec avec les gens d'affaires qui ont des success stories. Il y a toujours cette envie de les voir chuter, de les voir se casser la gueule. Au Québec, on le sait, c'est un territoire où il y a beaucoup de petites et de moyennes entreprises, beaucoup d'histoires familiales qui d'ailleurs ont souvent la difficulté à passer la main à la deuxième, à la troisième génération. Souvent, très souvent, ça s'écroule. C'est aussi des histoires de fleurons québécois, on l'a vu encore tout dernièrement, qui passent finalement à des mains étrangères. Bref, des belles histoires qui se terminent souvent en queue de poisson. Puis faire des affaires, c'est à la fois dans notre ADN, parce qu'au Québec, on est des gosseux, des entrepreneurs, des gens inventifs. On n'a qu'à penser au modèle coopératif des Caisse populaire qui était assez inventif, au Cirque du Soleil, un modèle d'entreprise inouï, les Rona de ce monde qui sont nés ici. Et c'est aussi pas dans notre ADN, les Canadiens français, les anciens Canadiens français n'avaient pas le contrôle financier pendant très longtemps.
Ben, c'est parce que l'Église voulait pas.
Il y a l'Église
avec
qui était
l'Église,
là, bien
fallait que soit docteur ou notaire.
Absolument, il y avait ça qui était
tout.
C'était un joug effrayant et on était des contremaîtres plutôt que des boss. Il y avait évidemment tout le rapport des Anglais à l'argent qui était très très différent à cause de leur Église, de leur religion là aussi. Et puis toujours, 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 notre rapport à l'argent a été conflictuel. On se méfie de la richesse et notre rapport à la réussite, c'est louche. Un succès, c'est pas normal. Tu te souviens de ces paroles de chanson de Félix Leclerc?
J'allais te les citer. Écoute,
le
plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Voilà,
bon,
exactement.
Je pense à ça depuis le début de ta
Mais
chronique.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je viens de te parler, Marie-Claude, de deux cordes sensibles. Nos problèmes avec la richesse et la réussite, ils ne sont pas évacués, même dans notre Québec contemporain. On vit encore mal avec le succès. On le gère souvent en amateur.
Ben, puis ma référence, tu sais comme moi que l'expression « nul n'est prophète en son pays » s'applique tellement souvent ici. C'est-à-dire
que
quelqu'un peut être un magnifique pianiste ou concertiste, mais tant qu'il n'a pas été vivre son succès ailleurs, on dirait que « oupalaï », c'est…
On pense à Alain Lefebvre, par exemple.
Entre autres.
Le succès qui nous pèse comme un boulet… Quand une entreprise connaît une réussite indiscutable dans le temps, j'ai pensé spontanément à Jean Coutu, qui maintenant est transmise à la deuxième, troisième génération. Le patriarche apparaît encore dans des publicités habillé en pharmacien pour faire modeste. Tu sais, il y a ce côté-là, on va avoir l'air plus modeste que ce qu'on est, parce que c'est un franc succès, Jean Coutu. Entreprendre, on le sait, c'est risqué, puis on tolère peu le risque au Québec. On veut des success stories simples, faciles. Or, être entrepreneur, c'est souvent très complexe, c'est un travail souterrain. Beaucoup de nos auditeurs sont des petits entrepreneurs, ils le savent. C'est vraiment, c'est consacrer des heures, des jours, des semaines à son entreprise. C'est vraiment compliqué.
L'autre aspect, Marie-France, aussi, qui me vient en tête en t'écoutant, c'est que pendant qu'elle avait son succès, je te gage qu'il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui voulaient être près d'elle. Là. Tu comprends?
Se coller au succès.
Se coller au succès, se vanter de la connaître, d'être son amie. Et là, soudainement, qu'ils ne seront plus ses amis.
Absolument. Ah oui, elle va être très seule.
Très, très particulière. En plus, qu'elle vient de divorce. Bon.
Exactement. Oui. C'est, parce que c'était mêlé. C'est souvent mêlé en affaires, d'ailleurs, dans les petites entreprises. C'est souvent mêlé. Heureusement, je te dirais, ce rapport... à la réussite et à l'argent et à l'entreprise est en train de changer ou peut changer. Il y a les éléments de changement. Les nouvelles générations sont souvent formées professionnellement au HEC. Je pense aussi à l'école d'entrepreneurship de la Beauce ou alors issues d'autres traditions, d'autres communautés ethniques où on n'a pas ce rapport très conflictuel et très coupable à l'argent et au succès. Donc, c'est en train de changer doucement, mais je retrouvais donc ces caractéristiques de problèmes face à l'argent et à la réussite dans ces commentaires que j'ai entendus, que j'ai lus à propos de l'échec de Caroline Néron. Et s'ajoute à ça que c'est une femme, qu'elle est belle, que c'est une vedette. Il y a beaucoup de misogynie, il y a beaucoup de jalousie dans les commentaires qu'on a pu lire. Alors, je lui souhaite de surmonter cette épreuve et de rebondir là où elle sera la meilleure.
Voilà, ben bravo. Bravo, Marie-France, et je te seconde totalement. Après les Gilets jaunes, ton autre sujet d'aujourd'hui, après les Gilets jaunes en France, qu'on connaît très, très bien, voici qu'il y a des cellules de Gilets jaunes Yellow Vest qui apparaissent au Canada ou dans le Rock, je devrais dire, parce que c'est pas au Québec. C'est quoi? C'est pas la même chose.
Alors, c'est pas la même chose. Et vraiment, on se demande à quoi ça rime ici, parce que en France, on le sait, on l'a vu de semaine en semaine, et d'ailleurs, demain, on annonce un autre, l'acte, ils sont rendus à l'acte 9, je crois.
9 ou 10.
Et vraiment, il y a eu des appels à la violence qui ont été lancés. En France, c'est quelque chose de vraiment... spontané comme mouvement, non organisé, très, très ancré dans la France périphérique, c'est-à-dire celle qui n'est pas des grandes villes, qui n'est pas de Paris. Ici, on l'a vu surgir tout dernièrement. Justin Trudeau est dans l'Ouest depuis mardi et à plusieurs reprises dans son parcours, il a été accueilli par des manifestants qui portaient justement la fameuse veste jaune fluo, qui est le symbole donc de cette fronde sociale en France. Et ici, ils sont plusieurs groupes au Canada anglais qui se manifeste sur Facebook. Un de ces groupes-là compterait au-delà de 100 000 membres et on y a tenu des propos très virulents contre le premier ministre, autant à cause de la taxe carbone que pour sa politique multiculturelle et sa politique d'immigration. Et même certains dans ce groupe-là ont lancé des appels à tuer Justin Trudeau, ce que la GRC prend très, très au sérieux.
Ben, j'espère
donc. C'est complètement fou. Au Québec, tu disais qu'il n'y en a pas... C'est très embryonnaire sur Facebook. Il y a des groupes qui vont d'une dizaine à quelques centaines de personnes, mais c'est surtout, tu as raison, surtout au Canada anglais, et ils ont appelé cette fin de semaine-ci à 2 jours de mobilisation, donc samedi et dimanche. Alors, est-ce que ça a des chances de prendre ici? C'est sûr que c'est pas la même situation qu'en France. En France, d'abord, c'est motivé par... c'est une société, un système bloqué, très hiérarchisé. C'est pas pour rien qu'on a autant de jeunes Français qui viennent s'établir ici.
C'est ça, c'est bloqué. Pas d'avenir,
bloqué,
pas de...
Exactement.
C'est terrible. Et tout coûte de plus en plus cher là-bas.
Tout coûte de plus en plus cher. On dit qu'on paye beaucoup d'impôts au Québec. C'est à peu près 37,3%. Là-bas, les charges fiscales sont de 46%. Le taux de chômage est énorme. Ici, plein emploi. On veut engager des gens et il n'y a pas de main-d'œuvre. Là-bas, 9,2% de taux de chômage. Ce système, donc, extrêmement bloqué. Cette charge fiscale paralysante qui détruit des petits entrepreneurs, entre autres. Et il y a un ras-le-bol, chose qu'on connaît moins ici, ras-le-bol envers les élites, envers les partis traditionnels. Et ça dure depuis des années, ça. Oui. Ici, je te le disais, les charges fiscales sont quand même moins lourdes, même si on peut s'en plaindre régulièrement, c'est quand même beaucoup moins lourd. C'est un système qui, malgré tout, fonctionne. Les gens se sentent représentés. Il y a moins de distance entre les élites et la classe dirigeante, même s'il y en a une, et ce qu'on appelle, entre guillemets, le peuple. Les cycles électoraux sont moins longs, 4 ans plutôt que 5 ou, pendant des années, 7 en France. Donc, tu étais pris avec ton gouvernement pendant très longtemps. Et les traditions de soulèvement, disons, sont pas mal moins élaborées qu'en France.
Mais c'est quand même particulier qu'il y ait décidé d'emprunter ce thème du gilet jaune au Canada anglais, parce que c'est rare qu'on voit le Canada anglais avoir envie de copier la France aussi.
Tout à fait. Mais ça a vraiment tellement marqué les imaginations. Il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en a en Belgique. Fait que ça s'est rendu jusqu'ici. Ce qu'on a en commun, par contre, je te dirais, et pourquoi ils ont peut-être emprunté le gilet jaune, il y a un fond de populisme qui commence à se manifester, une volonté de s'exprimer directement, qui est encore canalisée, qui est encore domestiquée ici. Les Ontariens ont élu Doug Ford en Ontario.
Eh oui.
Mais c'est canalisé à l'intérieur d'un parti, d'une manière beaucoup plus modérée, infiniment plus modérée. Ce vent de populisme s'exprime par le fait qu'on ait voté pour la CAQ majoritairement au Québec. Comme
entre
je te dis, c'est très, très, très
autres,
endigué, oui. Mais ça parle de populisme.
Absolument. Marie, j'allais dire, je te laisse finir, mais il va falloir se laisser parce que le temps file,
oui,
Marie-France.
Oui, ben, je te dirais que la meilleure police d'assurance contre les débordements, c'est que l'appel au ralliement a été fait dans des Tim Hortons, parce qu'on n'a pas de rond-point ici puis qu'il fait froid. Alors, comment une entreprise qui vend joyeusement des petits matins peut-elle susciter la révolution? Bref, ça ne se passera pas en fin de semaine.
Quelle belle question pour terminer. Merci infiniment.
Ça a été un plaisir, Marie-Claude.
Ça a été un grand plaisir pour moi aussi. À bientôt, Marie-France.
Au revoir.
Bye-bye.